titres de l'actualité.
Et au sommaire de ce journal, la vision des spécificités corses par Jacques Toubon, le défenseur des droits dans l'île pour deux jours. Nous verrons également que dans les quartiers sud de Bastia, la cité des mondes, dont deux bâtiments sont promis à la destruction, la colère perdure et puis l'Europe. Les élections dans moins de deux semaines, nous parlerons de l'urgence écologique avec un des candidats de cette liste, Henri Malos.
Le point sur l'actualité, Didier Arnoux, bonjour.
Bonjour, et on débute ce journal avec un rendez-vous. Vous avez rendez-vous ce midi avec l'émission Place Publique, le rendez-vous mensuel de RCFM avec nos confrères de Corse Matin. Place Publique enregistrée samedi dans le cadre de la fête de la Méditerranée au parc Galéa, Tayo Isolach, sur le thème de la protection et le développement de la Méditerranée. Parmi les invités, Ségolène Royal, ancienne ministre de l'Environnement, ambassadrice des pôles, Jean-Michel Coulioli de l'Office de l'Environnement, Gérard Perjean, professeur en écologie marine, et François Simard, qui expert international. Rendez-vous de 12h10 à 13h. Avant cela, on parle de précarité, de déserts médicaux, d'infrastructures, de praticiens, de médecins difficiles à trouver, notamment dans le rural, mais pas que dans le rural. La Corse n'est pas gâtée en matière d'accès aux soins. Un droit pourtant fondamental qui est évoqué ces deux jours par le défenseur des droits lui-même. Jacques Toubon est en déplacement en Corse, à Ajaccio, jusqu'à demain. Il doit évoquer ses problèmes dans notre contexte d'insularité. Il doit rencontrer les élus, les acteurs locaux, comme les membres du CESEC, et en particulier l'association INSEM.
Je vais passer un bon moment avec l'association INSEM, justement, pour cette question, parce que ce sont des réclamations que reçoivent beaucoup mes délégués, mes quatre délégués, dans les deux départements. D'abord, la prise en charge ne se limite au transport, hein, il n'y a pas d'hébergement. Il faut un accord préalable. Et donc, je crois véritablement qu'il y a quelque chose, à mon avis, enfin une situation qui me paraît relever à l'intérieur du règlement général de la prise en charge par l'assurance maladie, qui relèverait, à mon avis, d'un cadre réglementaire spécifique à la Corse. Il faut, là, comme dans d'autres domaines, naturellement, faire face, avec des moyens spécifiques, des règles spécifiques, à une situation spécifique de la Corse.
Jacques Toubon au micro d'Hélène Battine, une visite de terrain qui s'inscrit dans un tour des 13 régions françaises sur des thématiques variées comme les droits de l'enfant ou encore la discrimination, les discriminations liées au handicap. Encore se rappelons que 4 délégués assurent sur place des permanences gratuites pour celles et ceux qui peinent à accéder à leurs droits. À Bastia, comme il l'avait annoncé jeudi dernier, les habitants de la cité des Monts, dans les quartiers sud de la ville, ont organisé hier soir une réunion publique à la salle polyvalente de Loupine, nouvelle action de sensibilisation du collectif qui s'est créé pour s'opposer à la destruction de deux immeubles de cette cité, les 32 et 33, dans le cadre de la rénovation du quartier. 112 familles sont concernées. Dans leur grande majorité, les habitants réfutent les avis qui auraient été donnés par des experts sur l'insalubrité, voire la dangerosité des appartements. Pour en débattre, elles avaient invité hier soir les élus de la ville. Seuls ceux de l'opposition avaient fait le déplacement. Mais on notait aussi dans l'assistance la présence de représentants de la Ligue des droits de l'homme venus en tant qu'observateurs pour écouter et pour comprendre, selon Jean-Sébastien de Casalte.
Il était tout à fait normal que la Ligue soit présente et qu'elle dise tout simplement, par-delà les polémiques, qu'il ne saurait y avoir de bonnes décisions en la matière sans que les habitants ne soient impliqués et sans que ceux-ci, bien évidemment, ne soient consultés.
C'est ce qui vous semble manquer aujourd'hui ?
En tout état de cause, je pense qu'il y a des préoccupations et des préoccupations qui sont exprimées aujourd'hui par un certain nombre de ses habitants. Elles méritent d'être prises en considération et je crois que l'écoute de leurs préoccupations me paraît être indispensable. C'est à ce titre que je suis venu pour encore une fois écouter, découvrir et délivrer un message extrêmement simple qui est celui d'une concertation nécessaire et indispensable pour que ces inquiétudes puissent être apaisées.
Interview signée Jean Prounette. À la politique avec les élections européennes, le scrutin a lieu chez nous le dimanche 26 mai. 34 listes sont engagées, un peu moins d'une vingtaine proposeront des bulletins de vote, les autres sont à télécharger. Dans les 34, et nous vous proposons dans nos journaux de faire connaissance avec les candidats corses, il y a Urgence écologie, liste conduite par le philosophe Dominique Bourg, professeur à l'Université de Lausanne et ancien vice-président de la Fondation Nicolas Hulot. Et en cinquième position, il y a un Corse, Henri Malos. Bonjour.
Bonjour.
L'Europe, vous connaissez en tant qu'ancien président du Conseil économique, ça vous démangeait d'y retourner ?
Écoutez, moi je pense d'abord ce qu'il faut noter, c'est que vous avez une liste Urgence écologie qui s'intéresse particulièrement à la Corse, puisque Delphine Bateau, qui est la grande animatrice de la liste, ancienne ministre de l'Environnement, était en Corse avant-hier et hier, pour les premiers jours de la campagne officielle, et qui m'ont fait l'honneur d'être numéro 5, je crois que c'est la meilleure position, une position éligible en plus, qui était attribuée à quelqu'un de notre île. Donc voilà, et puis pour moi l'Europe c'est naturel, c'est mon ADN. Je suis né avec l'Europe à Bastia, avec mon papa professeur d'allemand, et depuis c'est la passion de ma vie.
L'écologie, c'est l'Europe qui doit la définir, obligatoirement.
Écoutez, vous savez, d'abord, effectivement, c'est la compétence de l'Europe pour 80-90% de ce qui concerne l'écologie. Puis ensuite, vous savez, l'Europe, elle manque aujourd'hui de stimulants. On a fait l'Europe dans les années 50-60 pour faire la paix. Aujourd'hui, la paix est faite. Quelle est l'urgence? Mais l'urgence, c'est de survivre nous, face à une nature de plus en plus en danger. Vous avez vu le rapport il y a quelques jours sur la biodiversité, plus d'un million d'espèces qui risquent une extinction immédiate dans les quelques années qui viennent. Donc ça fait peur, ça. Et là, l'Europe peut réunir les Européens, comme elle a fait autour de l'idée de paix, elle peut le faire autour de l'idée de l'écologie aujourd'hui. C'est un très bon sujet, regardez, les jeunes se mobilisent pour ça. Et donc, il faut aller vers les aspirations des jeunes.
Alors, il y a 4 ou 5 listes, je crois, de sensibilité écologiste à cette élection. Est-ce que c'est la preuve que le sujet, la thématique, le problème de l'environnement sensibilise, ou est-ce que c'est la preuve qu'il y a toujours autant de divisions dans cette famille écolo?
Moi, je regarderai pas les choses comme ça. Je regarderai que toutes les listes, pratiquement toutes les listes, de gauche, de droite, du centre, parlent d'écologie. Regardez celle du président Macron. Donc, ce qui veut dire que tous les partis sentent bien que c'est le sujet du moment. Mais nous proposons une offre différente. Nous ne sommes pas une secte, nous ne sommes pas un parti politique. C'est un rassemblement de citoyens, de sensibilités différentes, qui, sous la houlette de l'ancien vice-président de la Fondation Hulot, avec des personnalités comme Delphine Bateau, Antoine Wächter et d'autres qui ont vraiment œuvré dans leur vie au quotidien pour l'écologie, mais nous voulons rassembler au-delà des querelles politiciennes ou des coalitions. C'est pas une liste de gauche, c'est pas une liste de droite, c'est pas une liste du centre. C'est une liste qui définit l'écologie comme une urgence. C'est ça qui fait sa grande originalité. C'est une liste de causes et pas une liste de partis.
Merci Henri Malos. 5e sur cette liste urgence écologie. Demain à votre place, la liste La France Insoumise avec Nathalie Bourras qui pointe en 35e position. En bref, et pour conclure, le coup d'envoi ce soir du Festival de Cannes avec en ouverture après la cérémonie The Death Don't Die de Jim Jarmusch, soirée diffusée dans des salles de cinéma, 600 au total, dont 3 dans l'île, le Régent à Bastia, l'Espace Culturel et l'Ellipse à Ajaccio, une opération réalisée en partenariat avec le Festival de Cannes, Canal+, la Fédération Nationale des Cinémas Français. Voilà pour l'information, retour de l'actualité à 16h, H24 quand vous voulez, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Dans quelques secondes, nous retrouverons le Parc Galéa Tahusolach avec Place Publique, émission enregistrée samedi, dans ce superbe écrin d'environnement, avec comme thème la protection de la Méditerranée, un Place Publique réalisé par Jérôme Soussigny.
France Bleu, RCFM.
France Bleu.
France Bleu, RCFM.
France Bleu.
RCFM est plus belle et gagne son égo. RCFM, insieme, si muore. RCFM.
Avec l'application France Bleu, appelez RCFM en un seul clic. Pour téléphoner et participer en direct aux émissions et aux jeux, un seul bouton et vous êtes en ligne. Plus simple, plus interactive, plus proche de vous, l'application France Bleu.
Da Sota a Luciana, da Sarthe a Siscu, RCFM, con noi siete bene.
Une émission Place Publique spéciale Fête de la Méditerranée depuis le parc Galéa avec notre partenaire le Corse Matin. Les problématiques de cette mer Méditerranée, comment lier protection et développement avec des questions du public également. On y va tout de suite.
RCFM, Place Publique.
On va donc présenter nos invités. Madame Ségolène Royal, qui a été ministre de l'Environnement, de l'Écologie et de la Mer. Jean-Michel Coulioli, de l'Office de l'Environnement de la Corse, qui...
Salut à toutes.
Qui gère plus particulièrement la réserve des Bouches de Bonifacio. Monsieur Gérard Perjean, de l'Université de Corte.
Bonjour.
Professeur en écologie marine. Et puis François Simard, qui est un grand expert Bonjour. International. Bonjour François Simard.
Merci.
Sur les questions de la biodiversité, on est en plein dans le sujet avec ces questions de biodiversité. Comme vous le savez, si vous suivez un petit peu l'actualité, si vous écoutez un petit peu la radio, en ce moment, on parle beaucoup de biodiversité consécutivement. À une alerte, c'est pas la première fois, mais là, ça a un peu plus de retentissement. Il y a une alerte d'experts de l'ONU sur cette biodiversité qui est menacée. Et on estime que 1 million d'espèces animales, végétales, notamment des espèces marines, pourraient disparaître. Il y a eu une réunion du G7, c'est-à-dire ces gouvernements, ces pays, le G7, ces représentants de ministères de l'Environnement de ces 7 pays qui se sont réunis tout dernièrement et qui ont entendu également et répercuté ces conclusions de ces experts du G7. Et puis, il y a le président de la République qui a dit, eh bien, il faut prendre en compte tout ce que l'on vient d'entendre et qui a annoncé quelques mesures. On va commenter cela aussi, ces alertes dont va nous parler d'ailleurs Noël Cruslin. La Méditerranée, il y a une situation, la mer, la nature, l'environnement qui est alarmante avec quelques chiffres éloquents. Noël.
Oui, parce qu'on est là pour parler de la mer Méditerranée. Donc, a priori, ce qui apparaît comme quelque chose de très, très réjouissant, au premier abord comme un univers féerique, un grand bleu baigné de soleil. Mais aujourd'hui, dans ce grand bleu baigné de soleil, il y a des clignotants, des voyants qui clignotent plutôt. La Méditerranée, c'est 25% du trafic maritime mondial, avec toutes les conséquences que cela peut comporter. Ce sont des milliers de situations à risque par jour. Je parle du risque de collision entre les cétacés et les bateaux. C'est un niveau record de contamination, là je change un peu de registre, de concentration de microplastiques de l'ordre de 1,25 million au kilomètre carré. C'est une augmentation de la pollution marine pendant la période touristique à hauteur de 40%. C'est 134 espèces victimes de l'ingestion de plastique. Et pour terminer, je vais parler de l'herbier de Posidonie. On parle, l'herbier de Posidonie, qui est un indicateur de biodiversité, on parle d'une réduction de 10% en Méditerranée de l'espace de l'herbier de Posidonie pendant le dernier siècle. La première question, on va la poser peut-être à Madame Royal. Quel est celui qui, selon vous, est le plus inquiétant, ou est-ce que vous en voyez d'autres peut-être ?
Bonjour à tous d'abord et à toutes, merci d'être venus aussi nombreux. Bonjour à vous, les éminents experts qui font des choses formidables. Je suis très heureuse et très honorée d'avoir été invitée à être parmi vous. J'avais envie de commencer à répondre à votre question par une phrase d'Hubert Reeves, notre grand astrophysicien, qui dit ceci: dans la guerre contre la nature, quand l'homme gagne, il perd. Dans la guerre contre la nature, quand l'homme gagne, il perd. Je pense que tout est dit. C'est-à-dire qu'on a longtemps pensé que l'on pouvait être des prédateurs de la nature, que l'air était gratuit, l'eau était gratuite, la terre était gratuite, que tous les prédateurs qui polluaient l'eau, la terre et l'air pouvaient le faire et s'enrichir individuellement aux dépens de l'intérêt général, de l'intérêt collectif et de la santé publique.
Quand vous dites quand l'homme gagne, ça veut dire quand le développement économique s'accroît?
Oui, pas seulement. Il y a aussi la pression touristique, vous l'avez dit. Et la Méditerranée est un extraordinaire modèle de petit océan. D'abord parce qu'elle a une biodiversité remarquable, 17 000 espèces recensées sous votre contrôle. Et c'est en même temps l'espace marin qui subit la plus forte pression. La plus forte pression en termes de construction, en termes de pression touristique, en termes de transport maritime. Et je voudrais juste dire à quel point moi je suis très très fière d'avoir participé avec les Corses et la demande des élus de la collectivité territoriale à la création du parc marin du Cap Corse et la création du rail au large du Cap Corse avec l'interdiction des bateaux qui transportent des matières dangereuses de se croiser pour éviter justement les collusions. Et en même temps, nous avons aussi, grâce à la création de ce parc marin, installé sur tous les bateaux français, en tout cas, des systèmes de détection justement des mammifères marins pour empêcher les collisions avec les mammifères marins, créé la coalition pendant la COP21, parce que vous savez que j'ai présidé la COP21, la coalition anti-sac plastique avec Monaco, le Maroc, on a été les trois pays, France, Maroc, Monaco au départ, l'Italie, a créé cette coalition anti-sac plastique. Et ça pour dire que quand on veut agir, on peut agir. Et ça, je crois que c'est très important en matière d'écologie de ne pas rester dans un discours catastrophiste, mais bien d'identifier les capacités d'action et la façon dont on peut aller de l'avant.
Alors, merci, Madame Royat. Jean-Michel Couliol, sur ce que l'on vient d'entendre, vous gérez cette réserve des Bouches de Bonifacio, vous êtes sur le terrain. Dans ce que l'on vient d'entendre de ces systèmes de protection, finalement, ils s'appliquent directement sur Bonifacio, sur Bonivaz, sur Détroit de Bonifacio. Qu'est-ce qui a changé? Comment ça fonctionne aujourd'hui? Racontez-nous un petit peu.
Quels sont les systèmes de protection qu'il faudra mettre en place? On ne va pas revenir sur les dangers, sur les pressions qu'il y a aujourd'hui en Méditerranée. Je crois qu'il faut vraiment être très très attentif à tout ce qui s'y passe, y compris dans ce qui peut être très petit par rapport aux microplastiques, les effets cocktails des composants des plastiques qui sont extrêmement dangereux pour les mammifères et pour l'homme.
Jean-Michel Fouliol, il y a un système de mesure assez particulier de la présence des plastiques en Méditerranée sur la zone des Bonifacio. Racontez-nous une histoire de cormorans.
Alors sur les cormorans, on s'en sert comme un indicateur. C'est dans la réserve des Boues qui est née dans les années 80, l'initiative de ce mouvement. On en parlera en Corse, mais bien évidemment la protection de la nature en Corse, c'est qu'on a un lien charnel avec cette nature et avec la mer. On a depuis longtemps mis en place des suivis scientifiques avec des scientifiques. Hein, Gérard Perjean fait partie du conseil. Et parmi les suivis scientifiques du cormoran UP ou Magron ou Marangon, les bénéficiaires disent bon, il y en a partout, faut pas exagérer. On protège dans les bouches 10% de la population mondiale. Et cet animal, on s'en sert également pour détecter la présence de plastique dans leur nid. C'est-à-dire que quand on va compter tous les ans les poussins, les couples reproducteurs, ben on associe à ce suivi le comptage des plastiques. C'est un indicateur qui est après élevé à l'échelle européenne de la directive stratégie cadre. Donc les animaux peuvent parfois nous amener bien évidemment beaucoup, beaucoup d'éléments.
François Simard, dans ce qu'a exposé Mme Ségolène Royal à l'instant, ces rails de protection, ces aires marines protégées, dans ce qu'a annoncé le président de la République là, l'autre jour, une extension des aires marines protégées, est-ce que l'on va sur ces extensions vers quelque chose qui pourra s'avérer efficace? Elles sont importantes autour de la Corse, pourtant il y a quand même des soucis.
Juste une précision, Monsieur Simard, les aires marines protégées en Méditerranée, avant que vous répondiez, elles couvrent 7,5% de tout l'espace maritime méditerranéen. Donc on peut poser la question, est-ce que c'est suffisant? Puis en même temps, est-ce que l'existant a joué son rôle, a eu ses effets bénéfiques?
Les États sont engagés pour protéger 10% des océans en 2020. Je pense qu'on va y arriver. Globalement, on va réussir à avoir 10% des océans déclaré en appellation d'aires marines protégées avant 2020. Ce qu'on ne va pas réussir à faire, c'est que ces 10% des océans soient bien gérés. Ce sera des aires marines protégées, et puis il ne va pas s'y passer grand-chose. Or, ce qu'on veut, c'est protéger, c'est pas déclarer que c'est protégé. Donc il y a effectivement un énorme problème d'efficacité des mesures de gestion qui sont mises en place ou pas dans les aires marines protégées. C'est le problème numéro un. Et vous parlez de 7,5% de la Méditerranée en aires marines protégées. C'est probablement moins d'1% qui est vraiment bien géré. Et je dirais, le deuxième gros problème par rapport à ce chiffre de 10% ou de 7,5%, disons 10%, c'est le reste. C'est bien gentil de protéger 10% des océans ou 10% de la Méditerranée, mais ce qu'il faut, c'est quand même au moins bien gérer les 100% des océans. Et je crois que là, il y a encore un gros effort à faire. C'est qu'on ne peut pas se permettre de seulement protéger 10% et de dire, on verra bien ce qui se passe avec l'Oise. Alors, le président Macron veut protéger 30%. C'est déjà formidable. Et là, il est bien en avance, puisqu'on pense que les 30%, ce serait l'objectif un peu idyllique qu'on voudrait discuter lors du Congrès mondial de la nature l'année prochaine. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier les 70% restants, et c'est ça aussi qu'il faut les gérer. On ne peut pas protéger tous les océans, on est bien d'accord, mais au moins les gérer pour le développement durable.
Quand on parle de cette Méditerranée qui est une mer fermée, on comprend d'autant mieux la nécessité que la couverture soit la plus large possible, parce que ce que l'on appelle la communication, ce que l'on appelle l'effet papillon, évidemment, cela on le comprend parfaitement. Gérard Perjean, quand on parle de cette nécessité d'expansion de zones d'air marine protégées, vous étiez dernièrement au mois de janvier à Antalya, en Turquie, avec une centaine de spécialistes sous l'égide de l'ONU. Et une des conclusions, c'était de dire il faut effectivement plus d'air marine protégée, il faut effectivement plus de moyens de mesurer la biodiversité, la végétation sous-marine, et il faut plus de moyens sur un peu de long terme de comprendre bien ce qui se passe. Mais ces aires marines protégées, vous avez dit. Suite à ce symposium en Turquie, on va les étendre sur le sud-est de la Méditerranée. Il y a nécessité de les étendre sur le sud-est de la Méditerranée. C'est ce que je disais. La problématique, c'est que finalement, il faut que ce soit une acceptation de tous les pays, une participation de tous les pays riverains.
Oui, effectivement, comme disait François Simard, 7,5%, 10%, c'est bien, mais c'est un chiffre à l'échelle de la Méditerranée. Si on regarde où sont ces aires marines protégées, elles sont pratiquement toutes dans le nord, voire dans le bassin occidental de la Méditerranée. L'effort doit être porté sur l'ensemble du bassin. On ne peut pas protéger la partie européenne de la Méditerranée et laisser le reste de la Méditerranée, je dirais, se dégrader de façon relativement importante. Donc je pense que ça, c'est un premier point. On ne peut raisonner pour la Méditerranée qu'à l'échelle globale du bassin et pas enfin l'ensemble du bassin oriental et occidental et pas simplement sur des territoires.
Madame Royal, sur ce que l'on vient de dire, ces nécessités de protection, par exemple sur la Méditerranée, qui est notre sujet du jour, il faut gérer sur l'ensemble du bassin. C'est une discussion, on le sait, les experts sont là, alertes, on l'a encore vu dernièrement, alertes, mais ce sont des discussions de là, vous gérez en ce moment la discussion internationale sur l'épaule, vous comprenez bien la problématique de discussion internationale entre pays, et comment ça peut se avancer entre tous ces pays qui ont des intérêts différents.
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un très bon objectif de continuer à avoir des aires marines protégées. Mais tout le problème, c'est est-ce qu'on est capable de gérer ces aires marines ? C'est-à-dire, c'est beau, sur une carte, ça fait plaisir. Moi-même, j'en ai créé des aires marines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il faut quand même des organismes de gestion. Puis il faut que les décisions... Vous voyez que ça soit pas seulement fait pour faire joli sur une carte. Ça veut dire que derrière, il faut de la réglementation, il faut des contraintes, il faut le principe pollueur-payeur, etc.
Vous disiez 1% seulement d'effectivement protégés sur les 7,5, c'est presque un constat d'échec.
Michel Collioli.
Ouais. Ouais, je crois que ce qui est très important aussi, c'est qu'effectivement, des parcs de papier, on peut en créer. Il faut mesurer l'efficacité de la gestion.
Il faut des moyens.
Il faut des moyens, bien évidemment. On sait très bien qu'il faut des moyens de surveillance. Il faut comptabiliser l'ensemble de la nature, comptabiliser les impacts de l'homme sur la nature. C'est ce qui se fait maintenant à des échelles très larges au niveau mondial, au niveau méditerranéen. Mais regardez aussi un autre chiffre. Écoutez un autre chiffre. C'est 0,04% de réserves marines intégrales. C'est-à-dire que uniquement 0,04% de la Méditerranée est protégée de manière intégrale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher, on ne peut rien toucher. Et l'on sait, c'est un formidable espoir pour cette mer, parce que quand on dit le sud, le nord, la Méditerranée, c'est notre sang. Et c'est aussi une mer qui n'est absolument pas fermée, mais qui est en connexion entre le sud, le nord, l'est, l'ouest. Les mérous que l'on protège quelque part, à Scandola, mais partout, quand on protège des mérous, quand on protège des poissons pour qu'ils puissent se reproduire, ils peuvent essaimer. On sait très bien que mettre en place une réserve, c'est 10 fois plus de poissons, 10 fois plus de ressources dans une zone, et cette ressource est une biomasse qui s'exporte. Alors, ce n'est pas simplement le but de mon intervention, n'est pas simplement de dire qu'il faut créer des réserves uniquement intégrales. Seulement, les experts que nous sommes disons très clairement qu'il faudrait arriver au moins un minimum de 2% d'aires marines protégées intégralement et bien réparties autour de la Méditerranée, déjà pour avoir la possibilité de sauver le minimum. Et puis après, aux 10% d'aires marines protégées, bien évidemment, il faut que ça soit des aires marines protégées dotées de moyens de gestion. Comment on les a mis en place à Scande, comment on les a mis en place sur les Lavezzi, avec sur les Lavezzi dans les Bouches, comme il est en train d'être mis en place dans le Cap Corse. Il y a aujourd'hui vraiment une nécessité, des besoins d'avoir des moyens de surveillance, des moyens de surveillance scientifiques, des moyens de surveillance tout court sur ces zones, parce que ces zones, sont, quand elles deviennent très riches, elles deviennent très productives pour la biodiversité, très productives pour l'économie, et il faut pouvoir les protéger.
Mais justement, ce que vous disiez, ces réserves intégrales qui sont réduites à la portion congrue, c'est sûrement dû à ce que vous disiez en tout début d'émission, Madame Royal, la pression de l'économie maritime qui est considérable et aujourd'hui extrêmement diversifiée.
Oui, mais et justement, ce qu'il faut, c'est agir en fonction des différentes menaces. Il y a trois types de menaces hein, pour aller vite. Hein. Il y a la surexploitation, par exemple la surpêche. Par exemple, on ne dit jamais assez que la prolifération des méduses, c'est dû à la surpêche. À la surpêche de quoi ? Surpêche des sardines. Parce que les sardines mangent les larves de méduses. Mais quand il y a trop de pêche de sardines, il n'y a plus assez de sardines pour manger les larves de méduses. Et donc les méduses prolifèrent. Et après, on est étonné. Ben non. Il y a une chaîne du vivant, un équilibre de la chaîne du vivant. Et dès qu'on déstabilise cette chaîne du vivant, ben, on en paye les conséquences. Et après, on s'étonne. Donc la surexploitation. Après, il y a les pollutions. Enfin, tout le monde peut agir, que ce soit réserve ou pas réserve. Tout le monde peut agir contre les pollutions. Et on a bâti autour de la Méditerranée, par exemple, une coalition des villes pour qu'il y ait des stations d'épuration dans les villes du pourtour de la Méditerranée qui empêchent les rejets de pollution dans la Méditerranée. Et de même, la mer, elle est non seulement polluée par ce qui tombe dans la mer, mais par tous les fleuves qui traversent tous les États qui sont non côtiers, et qui prend toute la pollution chimique et puis qui déverse ça dans la mer. Donc on parle beaucoup en ce moment des perturbateurs endocriniens. Par exemple, on s'étonne d'en retrouver dans la mer, mais forcément, ça vient de tous les fleuves qui passent dans les zones industrielles et qui déchargent ça. Le glyphosate, qui est dans l'actualité, vous avez vu le glyphosate avec Monsanto, eh bien tout ce qui est dans les champs, tous les pesticides qui sont dans les champs agricoles, qui se déversent dans l'eau, l'eau se déverse dans les fleuves et les fleuves arrivent à la mer. Donc, il n'y a pas que le littoral. Il y a une solidarité. Il doit y avoir une solidarité entre les territoires littoraux et les territoires de l'arrière-pays. Parce que tout le monde est comptable de ce qui redescend dans la mer. C'est trop facile de dire on va faire des petites réserves et puis on continue à polluer comme si de rien n'était. Vous voyez ? C'est aussi important de faire des réserves, des sanctuaires, de préserver ces sanctuaires. Quand j'entends dire, par exemple, il y a une contestation du sanctuaire de Scandole, parce que voilà, certains travaux touristes, c'est scandaleux.
Ils ont écrit au ministre de l'Environnement, François de Rugy, ses associations, pour l'interpeller. Ils ne sont pas les seuls à interpeller sur la situation. Ils l'ont écrit. Si vous aviez été ce ministre de l'Environnement, qui recevait cette lettre, que diriez-vous, que feriez-vous?
Mais il faut protéger cette réserve. On ne peut pas à la fois dire qu'il n'y en a pas suffisamment et en même temps céder à des bateaux de tourisme qui veulent perturber, qui veulent faire des plongées, qui veulent s'accoster. Mais non, c'est un endroit exceptionnel qui est protégé par une réserve. Il n'y en a déjà pas suffisamment, mais c'est un sanctuaire qui appartient aux Corses. Il faut absolument que la population protège ce sanctuaire contre les prédateurs qui n'en ont pas assez de toute la Méditerranée. Ils veulent encore venir dans les réserves qui ne sont pas suffisamment nombreuses. Mais non, c'est comme un joyau, c'est comme un monument historique, une réserve. C'est pas parce que c'est en dessous de la mer et que ça ne se voit pas, qu'on peut polluer, qu'on peut détruire, etc. Ça serait en l'air, ça serait visuel, on dirait non, c'est impossible, on va quand même abîmer ça. C'est comme un monument historique, ce qu'il y a dans la mer. Alors c'est sous l'eau, donc ça a été abîmé pendant des générations et des générations.
On va aller sous l'eau.
Sous prétexte que ce qui ne se voit pas peut être détruit, mais non, c'est très important parce que la vie sur Terre dépend de la vie sous la mer, vous voyez ?
Gérard Perjean, on va aller avec vous sous l'eau dans cette émission Place Publique. Puisque pour entrer un peu plus encore dans le concret des choses, vous travaillez depuis une dizaine d'années, et ça commence à être reconnu, disiez-vous, il n'y a pas longtemps, finalement, ces sonnettes d'alarme, ces informations, ces éléments scientifiques commencent à être compris, entendus. Notamment, vous travaillez sur une plante, hein, ici on est au parc Galliard, on est entouré d'espèces différentes de plantes, c'est une plante sous-marine qui s'appelle la Posidonie. Là, vous savez, ce sont ces algues qui arrivent sur les plages et que certains n'aiment pas, et pourtant, elles sont essentielles, ces Posidonies. Gérard Perjean, racontez-nous.
Oui, je crois, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure par Madame la Ministre sur la COP21, c'est la prise en compte du milieu marin sur son rôle d'atténuation des changements climatiques. C'est quand même 50%, plus de 50% des gaz à effet de serre qui sont émis par la société humaine, qui sont captés, qui sont fixés par le milieu marin. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je crois que là, on a fait un bond en avant, et notamment sur l'aspect puits de carbone. Et les herbiers de Posidonie, si on devait leur donner une fonction principale, en dehors du fait que c'est un pôle de biodiversité, que ça protège les plages contre l'érosion, etc., c'est qu'elles sont un véritable... je dirais une véritable éponge capable d'absorber ce carbone que l'on envoie dans l'atmosphère, qui rentre ensuite dans le milieu marin, et surtout de le conserver pendant des milliers d'années. On vient d'avoir des résultats le long de la plaine orientale, donc derrière vous, sur des accumulations de carbone par cette plante qui ont plus de 8000 ans. Ça fait plus de 8000 ans que cette plante prend le carbone qui est émis, la rentre dans le sédiment et le piège ne repart pas. Le problème que l'on a, c'est que maintenant, on a des développements de nouvelles activités. Vous disiez, il faut réagir aux nouvelles activités, notamment le développement de la Grande Plaisance. La Grande Plaisance, avec leurs ancres, avec leurs chaînes...
C'est arrêté préfectoral qui est en cours de la préfecture maritime, parlons-en.
Tout à fait. Déchire, si je dirais, creuse ces herbiers et remettre ce carbone en disposition. Et là, pour une fois, on peut être aussi optimiste, on a eu une réaction très rapide, puisqu'au mois d'avril vient de sortir un décret qui est en cours de finalisation sur l'interdiction de l'ancrage de ces grandes unités sur les herbiers de Posidonie. Alors, c'est pas anecdotique. Pour vous donner une idée, 50% de la Grande Plaisance est en Méditerranée. C'est pas 10%, 20%, c'est 50% de la Grande Plaisance mondiale se trouve en Méditerranée. Imaginez les dégâts que ça peut faire.
50% de ces grandes plaisances, ce sont des yachts de plus de 24 mètres. Pour préciser à nos auditeurs et à notre public, c'est un arrêté qui est en cours de consultation, qui va être publié par la préfecture maritime de Méditerranée pour limiter sur l'ensemble des eaux françaises, bien sûr, la présence, le mouillage de ces grandes unités, Noël. Madame Ségolène Royal.
Si je puis me permettre un mot sur la pression touristique qui ne respecte pas l'environnement, il y a ça, il y a le problème des ancres qui arrachent donc la biodiversité marine, donc l'obligation pour ces bateaux de s'arrimer à des bouées, d'une part, et d'autre part, la pollution par le fioul, c'est-à-dire quand un bateau vient dans un port, en une journée, il pollue comme une année de pollution sur la ville.